Radio France, faites le livre jusqu'à dimanche ici à la Maison de la Radio. C'est la 4e édition de ce rendez-vous. L'on vous attend nombreux pour venir à la rencontre de plus de 200 auteurs qui sont présents pour des échanges et des dédicaces. Et au cœur de cette fête du livre, bien sûr, les ouvrages scientifiques qui ont toute leur place. Et dans notre club des Têtes au Carré, cet après-midi, j'ai le grand plaisir de recevoir Sylvie Chocron, Jean-Pierre Changeux et Jean-Claude Amezen. Bonjour à tous les trois. Bienvenue bonjour. Et bonjour au public qui nous a rejoint cet après-midi, nombreux. Bienvenue à toutes et à tous. Sylvie Chocron, peut-on mesurer l'intelligence? C'est la question que vous posez dans cet ouvrage qui sort aux éditions du Pommier. Vous êtes neuropsychologue et dans ce livre, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière de la mesure de l'intelligence. Jean-Pierre Changeux, vous publiez aux éditions Odile Jacob Les Neurones Enchantés. C'est un échange inédit entre le chef d'orchestre et compositeur Pierre Boulez, avec également le compositeur Philippe Manoury et vous-même qui êtes neurobiologiste. Le cerveau et la musique, donc au menu de nos discussions dans quelques instants. Et puis Jean-Claude Amezen, sur les épaules de Darwin, Retrouver l'aube est arrivé. C'est le troisième tome qui paraît aux éditions Les Liens qui Libèrent. Vous racontez une très longue histoire dans ce nouveau livre, celle qui se perd dans la nuit des temps et dont nous sommes les héritiers. On va donc se retrouver tous ensemble dans un instant pour croiser vos regards et vos livres sur ces sujets qui nous passionnent. Et puis bien sûr, les auditeurs nous rejoignent comme chaque jour en direct avec les messages et des questions franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé L'Attaque. Et puis vous également dans le public, n'hésitez pas à intervenir. Un micro est à votre disposition pour interpeller et discuter avec nos invités. Voilà, l'émission est réalisée par Violaine Ballet avec le dossier qui a été préparé par Lucie Sarfati et Myriam Tizniti.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
I'm gonna
I Want to Take You Higher avec Sly and the Family Stone à l'instant sur France Inter dans notre club des Têtes au Carré. Donc cet après-midi, à l'occasion donc de cette fête du livre pendant tout le week-end jusqu'à dimanche, nous avons donc quitté le studio 511 pour venir à la rencontre du public et des auteurs qui vont donc se croiser ici pendant tout le week-end avec des ateliers, des dédicaces, des lectures. Plus de 200 auteurs, avenue du président Kennedy, où on vous attend donc jusqu'à dimanche. Des ouvrages scientifiques, vous allez pouvoir en découvrir beaucoup avec par exemple la neuropsychologue Sylvie Chocron qui est avec nous, le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, Jean-Claude Amezen, président du comité consultatif national d'éthique, producteur de l'émission Sur les épaules de Darwin, et vous nous rejoignez bien sûr avec tous vos messages et vos mails sur franceinter.fr. Sylvie Chocron, Jean-Pierre Changeux, Jean-Claude Amezen, vous êtes tous les trois des scientifiques qui ont choisi d'écrire des livres. Pour quelles raisons au fond est-ce que vous avez franchi ce pas? Jean-Pierre Changeux, peut-être. Alors
pour moi,
commencer.
C'est très simple. L'enseignement au Collège de France doit être renouvelé chaque année. Le titre change, le contenu du cours change. Nous avons un public assidu et il faut que celui-ci puisse avoir, à la suite de cet enseignement oral, des documents écrits. Et comme nous travaillons beaucoup pour préparer ces cours, tous en tant que professeurs, beaucoup d'entre nous écrivons des livres qui reprennent les cours oraux sous forme écrite.
Ouais, et qui sont destinés à qui alors?
Alors, qui sont essentiellement destinés au public du Collège de France, mais ce public est assez vaste, il est très diversifié, depuis les étudiants jusqu'au quatrième âge, si j'ose dire, et avec des chercheurs aussi bien que des personnes qui ne connaissent pas vraiment le thème. Mais tous ont en commun le désir de comprendre et de connaître.
Voilà. Et puis de faire connaître aussi des recherches à d'autres que des scientifiques, précisément.
Hein,
c'est de faire sortir
aussi
vos travaux.
Ça fait partie de notre enseignement.
Sylvie Chocron, en choisissant les éditions du Pommier, justement, dans une collection très particulière, hein, qui sont les petites pommes et les grandes pommes maintenant du savoir, là aussi, vous, en tant que neuropsychologue, vous allez directement vers un autre public, vers d'autres interlocuteurs que des scientifiques.
Oui, et je pense que c'est très complémentaire de notre activité, soit clinique, soit scientifique. C'est aussi, même pour nous, une façon différente de se poser les mêmes questions, parce qu'en les exprimant différemment, on les conçoit différemment aussi. Et je pense qu'on progresse nous-mêmes aussi par rapport à nos sujets de recherche en écrivant pour un public qui n'est pas le public des chercheurs, de nos collègues, forcément.
Oui, c'était votre démarche aussi, Jean-Claude Amezen, avant même Sur les épaules de Darwin, parce que là, c'est un cas tout à fait particulier, mais vous avez écrit d'autres ouvrages avant.
Oui, tout à fait. Mais d'abord, j'aime écrire, et puis je pense que ce que dit Sylvie Chocron, c'est parler, écrire, c'est une façon de revenir, c'est une forme de réflexivité, c'est revenir sur ce qu'on pense et s'interroger, et en même temps, c'est, je crois, témoigner du fait que la démarche scientifique est une partie de la culture, et que donc, au même titre que les sciences humaines, au même titre que la poésie, que le roman, eh bien, la science peut aussi se dire, s'écrire, se lire,
voilà.
Et que c'est un récit. En plus d'être une démarche d'exploration du monde.
Et cette discipline a toute sa place ici pour cette fête du livre, justement, jusqu'à dimanche. Jean-Claude Amezen, l'histoire que vous vivez avec votre émission, donc vous la poursuivez avec la publication Au lien qui libère d'ouvrages qui reprennent donc les grands thèmes que vous abordez sur l'antenne de France Inter le samedi matin. Retrouver l'aube, c'est donc le troisième tome qui arrive. Il a déjà fait son entrée d'ailleurs dans les meilleures ventes de livres. Et dans ce nouvel opus, donc, vous nous emmenez très loin, aux racines, au fond, de nos origines. Avec ces traces aussi, c'est une notion importante qui deviennent parfois visibles et qui nous permettent d'en savoir plus sur l'endroit d'où nous venons, au fond.
Tout à fait. À la fois au tout début de notre existence, hein, cette période d'un an, deux ans, trois ans, que l'amnésie infantile efface, ce qui est notre généalogie, tout ce que les autres nous ont apporté, hein, tout ce qui est en nous comme trace de ce dont nous ne connaissons même pas l'origine. Et puis notre culture, notre langue, notre appréhension du monde, et puis nos origines beaucoup plus lointaines. Hein, d'où venons-nous, d'où vient l'humanité, et puis cette splendeur dans le vivant, hein, de ce qui ressemble, de ce qui nous ressemble, de ce qui nous parle des temps très anciens, hein, où au fond la généalogie du monde vivant, de nos cousins non humains, se confondait avec notre propre généalogie.
Avec des liens parfois plus directs qu'on ne pouvait même le penser, grâce à l'ADN, on en parlera tout à l'heure avec vous. Il y a une scène que vous évoquez dans votre livre, une scène du film Roma de Fellini, une scène qui nous fait ressentir justement cet étrange rapport au temps. Extrait.
Regardez, monsieur.
Une maison romaine d'il y a 2000 ans.
Michel, regarde ce visage.
Remets ton masque.
On dirait qu'il nous regarde.
Hé ! Venez ! Venez voir ce qui se passe !
Les fresques ! Les fresques disparaissent ! C'est l'air de l'extérieur ! Michel ! Michel ! L'air détruit les fresques ! C'est un désastre.
Voilà Jean-Claude Amezen, Roma de Fellini, avec cette scène tout à fait particulière que vous décrivez dans votre livre.
Oui, les travaux dans le métro de Rome, un tunnel qui est ouvert, d'un seul coup on découvre des fresques, et le fait d'avoir pu entrer, et le contact avec l'air ambiant, ce qui se passe d'ailleurs à un autre niveau, dans la grotte de Lascaux, dans la grotte Chauvet, eh bien détruit ce qui nous a permis de le faire apparaître, hein, c'est-à-dire cette entrée, ce corridor. Et ce que je trouve émouvant, j'évoque ce passage de Fellini-Roma à une occasion, c'est la découverte, la publication cette année, la découverte il y a un an, de traces de pas au bord d'une falaise, près d'une petite ville, la ville de Happisburg en Angleterre, au bord de la mer, des traces de pas qui d'un seul coup surgissent sous la falaise et que la mer, en fait, a permis de découvrir. C'est des sédiments très anciens. Et ces sédiments datent d'il y a 800 000 ans. Et donc, sont des empreintes de pas d'hominines qui précèdent l'émergence de l'homme et de la femme moderne, qui se promenaient sur ces côtes. La mer, en creusant la falaise, a permis de les faire découvrir. Et en deux semaines, la pluie et les marées le font disparaître. Et donc, là encore, ce qui nous a permis d'un seul coup de les voir surgir est ce qui les efface à jamais.
Est-ce que ces hommes, justement, il y a 800 000 ans, étaient déjà en train de partager des choses ensemble le soir, à la tombée de la nuit, autour d'un feu ?
Voilà, ce qui est très émouvant, c'est que parmi tout ce qu'on appelle le propre de l'homme, hein, les cultures, la fabrication d'outils, la capacité de se reconnaître dans un miroir, etc., etc., on s'aperçoit qu'il y a des reflets, des échos, des prémices dans d'autres espèces animales. Mais il y a une particularité humaine qui est peut-être le vrai propre de l'homme, c'est la domestication du feu. Or, la domestication du feu date d'il y a 750 000 ans, c'est-à-dire 550 000 ans avant l'émergence de l'homme et de la femme moderne qui nous ressemblent quelque part en Afrique. Et donc ces hominines, ces préhumains qui sont déjà humains mais qui ne nous ressemblent pas tout à fait, ont déjà domestiqué le feu. Il y a des travaux d'une grande anthropologue qui s'appelle Polly Wissner qui suggère que le fait de pouvoir se réunir la nuit auprès du feu a pu jouer un rôle extrêmement important dans l'émergence des cultures préhumaines et humaines. Elle a étudié chez des chasseurs-cueilleurs qui vivent actuellement dans différentes régions du monde et en particulier en Afrique du Sud, ce que se racontent ces personnes dans la journée et ce qu'elles se racontent la nuit. Dans la journée, elles parlent de cueillette et de chasse. Elles se plaignent, elles se disputent et elles racontent des plaisanteries. Il n'y a quasiment pas de temps pour raconter des histoires. La nuit auprès du feu, 80% du temps est passé à raconter des histoires, à chanter, à danser. Et ces histoires parlent des absents, soit de ceux qui vivent très loin, soit de tous ceux qui ont disparu et du monde surnaturel. Et donc, il y a cette idée que peut-être avant même l'émergence de l'humanité, quelque chose qui est intrinsèque à nos cultures, la capacité de rêver, la capacité d'imagination, la poésie, le chant, peut-être tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, a peut-être émergé de cette première domestication du feu.
Ouais, sauf que le cerveau de ces préhumains, il y a 800 000 ans, Jean-Pierre Changeux, il ressemblait à quoi alors précisément ?
Ouais, le cerveau de l'homme actuel est en fait la conséquence d'une longue évolution qui a commencé il y a à peu près 4 millions d'années en ce qui concerne les ancêtres directs de l'homme actuel, et s'est progressivement développé, et en passant par ce qu'on a l'habitude d'appeler le premier homme, c'est-à-dire le premier homo, qui est l'homo habilis, qui utilisait des outils, qui avait un cerveau déjà avec une asymétrie entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, donc peut-être les débuts d'un langage, parce que pour se raconter des histoires, il faut déjà avoir un langage. Et puis ensuite, il y a eu l'homo erectus, celui dont nous venons de parler. Et à ce stade, le cerveau n'était pas encore celui de l'homo sapiens, avec son poids de 1,4 kg. On est passé de 500 grammes à, oui, à 1,4 kg. Donc, il y a un triplement de volume, mais aussi une organisation qui évolue. Et entre autres, un territoire très important, là j'ai parlé de la gauche et de la droite, ce qu'il y a sous notre front, notre cortex préfrontal. Si vous regardez un singe les yeux dans les yeux, vous vous dites, mais où est son front ? Et il a le front très fuyant. Et bien, ce qui caractérise, entre autres, le cerveau de l'Homo sapiens, c'est un développement très important de ce cortex préfrontal qui va intervenir dans la conscience et, entre autres, la conscience de soi.
Et Jean-Claude Amezen, cette question du langage, elle est passionnante parce qu'évidemment, on peut se demander quel était le langage, le mode de communication de ces préhumains ou même plus récemment de Néandertal ou de Cro-Magnon.
Deux choses. Hein. La lignée qui va donner naissance à Néandertal, aux hommes et aux femmes de Néandertal, et celle qui va donner naissance il y a 200 000 ans aux hommes et aux femmes modernes en Afrique, se séparent il y a à peu près 600 000 ans. Et le cerveau des hommes et des femmes de Néandertal qui ont disparu il y a 40 000 ans, après s'être unis avec nos ancêtres. Ce cerveau est aussi volumineux que le nôtre, mais n'est pas exactement organisé de la même façon. Et il semble, des travaux suggèrent que la manière dont il se développait dans la toute petite enfance n'était pas exactement la même que le nôtre. Et ce que je trouve émouvant et fascinant, c'est de se demander combien de manières il y avait d'être humain, de vivre le monde, d'imaginer, de rêver en tant qu'humain. Il y avait sans doute une façon qui était celle des hommes et des femmes de Néandertal et d'autres branches perdues de l'humanité et que nous ne pouvons qu'imaginer. Au fond, nous ne sommes pas les seuls à avoir appréhendé en tant qu'humains la beauté, la richesse, les mystères du monde.
Avec un langage qui n'était pas forcément donc un langage oral, parce qu'on peut imaginer beaucoup d'autres choses encore. Hein.
Alors, il y a ce que je trouve passionnant et que je développe dans le livre, c'est quelles sont les origines du langage ? Et si on oublie même le langage humain, quels sont encore une fois les reflets, les échos de ce qu'on peut appeler un langage ou de ce qu'on peut imaginer être un langage chez des primates non humains ? Et il y a des vocabulaires, il y a des lexiques, il y a des langues assez rudimentaires de quelques mots qui se combinent et qui s'assemblent, qui sont des cris d'alarme chez certains singes, cercopithèques, les mônes de Campbell. Il y a toute une série d'études qui essayent de voir aujourd'hui si les chants des oiseaux, les vocalisations des dauphins, les chants des baleines pourraient ne pas être simplement des compositions musicales, hein, comme du Bach ou du Handel, mais être des opéras, c'est-à-dire est-ce qu'il y a en plus un sens des mots. Et puis il y a une origine, on a beaucoup attiré d'attention à cause de l'importance pour nous de la langue orale, aux origines de la langue parlée. Mais nous avons, l'humanité connaît depuis des temps immémoriaux, ce qu'on appelle la langue des signes. C'est-à-dire qu'au fond, la langue des signes peut, par les gestes, avoir une richesse symbolique, sémantique, grammaticale et de sens, aussi riche que la parole. Et toute une série d'études suggère qu'il y a, chez les chimpanzés, chez les rhesus macaques, des vocabulaires et des lexiques qui sont des lexiques et des vocabulaires par des gestes. Et donc, je crois que depuis, c'est Darwin avait ce pressentiment qu'il y avait des reflets de notre humanité dans toute une série d'espèces animales. Ça a été oublié, ses successeurs ont considéré qu'il était naïf, anthropomorphique. Et depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, il y a cette recherche chez nos proches parents ou des parents plus lointains de quelque chose, encore une fois, qui pourrait ressembler non seulement aux cultures, non seulement à la fabrication des outils, mais aux émergences de langage.
Alors, Sylvie Chocron, la perception visuelle, évidemment, hein, c'est très important dans la façon dont nous communiquons. On peut communiquer sans se parler, hein, justement.
Bien sûr, et de toute façon, la première relation du bébé à son environnement, à ses proches, elle est visuelle. Et par ailleurs, on sait que les personnes qui ont des troubles de la communication peuvent aussi être gênées pour comprendre les expressions émotionnelles. Donc effectivement, la communication, ce n'est pas que le langage. Et si on n'avait que le langage, on serait très très gênés pour communiquer, parce qu'il y a toutes les informations autres que les informations verbales, bien sûr.
Oui. Et même la lecture, pour reprendre ce que vous dites, hein, même la lecture, il y a des études qui suggèrent que le premier apprentissage du bébé, c'est pas simplement les voyelles, les consonnes et essayer de comprendre le champ de la langue, c'est aussi apprendre à lire sur les lèvres. Et nous continuons à lire sur les lèvres. Et il y a des études qui montrent que lorsque nous entendons quelqu'un nous parler et que nous lisons en même temps les lèvres, nous n'entendons pas la même chose que lorsque nous écoutons simplement sans regarder.
Ouais, Jean-Pierre Changeux, est-ce que ce sont les mêmes zones du cerveau qui s'activent chez la personne qui parle et chez celle qui l'écoute ? Comme ce qu'on est en train de faire là en ce moment.
Oui, je pense qu'il y a une partie des territoires qui sont engagés, entre autres dans la perception auditive et dans la compréhension, parce qu'il y a un aspect qui n'a pas été suffisamment mentionné et qui fait la différence quand même entre le langage de l'homme et d'autres langages qui sont plus simplifiés comme ou même inexistants chez certains animaux et qui sont des cris plutôt que des organisations. C'est le sens. C'est le contenu de sens. Et je pense que ce qui caractérise le langage humain, c'est justement la capacité d'organiser des objets de sens. Donc, sur ce plan, il va y avoir une communauté entre celui qui parle et celui qui entend et qui comprend, mais il va y avoir aussi une différence majeure, c'est au niveau moteur. Bien entendu, celui qui parle active une série de muscles qui lui permettent de s'exprimer et de vocaliser, et donc il y a des différences au moins à ce niveau-là, s'il y a aussi des choses en commun. Celui qui écoute peut aussi avoir une activation des aires motrices, c'est le cas aussi pour la musique, mais ça ne sera pas exactement la même, parce que sinon il y aurait une actualisation des mouvements moteurs.
Je pense qu'effectivement, il y a certains travaux très très récents qui montrent que non seulement on a une activité motrice pendant qu'on écoute du langage, mais on a même, si on enregistre les potentiels évoqués moteurs sur la langue, on a sur la langue une activité comme si on parlait pendant qu'on écoute le langage. Donc il y a effectivement cet accord parfait entre celui qui parle et celui qui écoute. Puis de toute façon, on sait effectivement, tous les gens qui ont des lunettes vous diront que quand ils veulent bien vous écouter, ils mettent leurs lunettes aussi. Et ce n'est pas juste une vue de l'esprit, hein, c'est que vraiment la vision aide l'audition et vice-versa. Donc sur l'intermodalité, c'est sûr.
Allez, Jean-Claude Amezen. C'est exactement
la même chose quand même, hein, entre entendre et parler.
Jean-Claude, pour terminer.
Oui, je trouve qu'il y a quelque chose de très émouvant. Il y a des études assez récentes qui suggèrent que lorsque quelqu'un écoute quelqu'un d'autre parler, non seulement les aires auditives, les aires de compréhension du langage et les aires de Broca, c'est-à-dire on initie la parole comme si on était en train de parler, mais les zones frontales dont parlait Jean-Pierre Changeux, celles qui sont impliquées dans la compréhension de l'histoire, sont en avance par rapport à celui qui raconte l'histoire. Comme si nous anticipions la suite de l'histoire. Et donc, on est en retard en ce qui concerne l'écoute et la prononciation intérieure des paroles, mais on est en avance en train d'essayer de deviner, d'anticiper ce qui nous est raconté, et ensuite on compare avec ce qui véritablement surgit dans le récit qu'on est en train d'écouter.
Jean-Claude Amezen, sur les épaules de Darwin, retrouvez l'aube au lien qui libère. Vous restez bien sûr avec nous, Jean-Claude. Dans un instant, nous évoquerons les neurones enchantés, ceux entre autres de Jean-Pierre Changeux.
Je suis venu te dire, faut être heureux. Alors arrête de courir et crois que tu iras mieux. Je suis venu te dire, faut être heureux. On n'a qu'à sourire, puis penser que c'est qu'un jeu. Dans mon canapé, une bombe devant les yeux. Un camouflé, un mensonge pour croire en Dieu. Et que ai-je vomi mes rêves trop pieux. J'suis juste venu te dire, faut être heureux. Y'a des paroles en l'air, un souffle des gens hargneux. Du vent, des idéaux saisis au vol pour aller mieux. J'ai cru voir la mer. C'était somptueux. Mais y'a un ruisseau qui coule au fond de tes yeux. Et puis une lumière qui brûle au creux de tes joues. Je voulais juste la voir avant de devenir fou. Je suis juste venu te dire faut être heureux. On lève nos verres à tous ces gens parfaits. Cupide a servi au système qui les paie. On crie notre haine aux yeux de la justice. On marche solidaire, mais finalement on sait qu'on n'y croit plus. Et on voit des paroles non digérées. Et puis on vide nos images. On crée des situations mieux négociées. Parce qu'on nous a dit un jour ça va péter. J'suis venu te dire faut être heureux. Rien à foutre tu sais, j'veux lire au fond de tes yeux. Je suis venu te dire faut être heureux. Et puis
après on verra. Qu'est-ce que tu veux? C'est des conneries. La vie elle est belle et c'est tant mieux. Je suis venu te dire, faut être heureux. Faut être heureux.
Être heureux avec Skip the Use à l'instant.
Le club carré sur France Inter.
Et Radio France Fête le Livre, nous y sommes pour cette quatrième édition, au premier étage donc de la Maison de la Radio. On vous attend jusqu'à dimanche avec, en ce qui nous concerne, Sylvie Chocron, Jean-Pierre Changeux et Jean-Claude Amezen qui sont nos invités, et vos messages sur franceinter.fr. Jean-Pierre Changeux, si nous écoutions les grillons ensemble, est-ce que ça vous ferait plaisir?
Est-ce que ça me ferait plaisir?
Oui,
bien entendu.
Un petit peu de grillons, regardez,
je pense
ils
que
sont là.
C'est agréable, mais ce n'est pas quand même une œuvre d'art.
Non, mais c'est une forme de musique quand même.
C'est une forme de musique, je dirais, animale, mais ce n'est pas une création comme on l'entend avec la musique chez l'homme.
Oui.
Et je pense que c'est un des aspects les plus importants de la musique, c'est d'être une création. Toute œuvre d'art est une création par le cerveau de l'homme, dans son environnement, à un moment historique dans lequel il se trouve. Et à cet égard, il y a une énorme diversité du répertoire. Alors que le grillon, pour une espèce, il va chanter toujours la même chose.
On l'entend
avec
là.
Un petit peu de variation.
Effectivement. Jean-Claude Amezen, il y a une musique de la nature extraordinaire quand
oui,
même.
Oui, il y a une musique de la nature, mais il y a aussi des interprètes très créatifs. C'est les baleines à bosse.
Oui.
Et les chants des baleines à bosse, qui sont des chants très complexes, avec des phrases, des thèmes, des refrains, qui sont chantés pendant 22 heures, sont chantés en chœur ou en canon, et évoluent au cours de l'année, et se transmettent d'une population de baleines à une autre. Donc il y a cette idée d'une culture musicale, d'une transmission des chants relativement élaborée, qui est assez différente du chant des grillons qu'on vient d'entendre.
Oui, Jean-Pierre Changeux.
Ça existe aussi chez certains oiseaux, mais je pense qu'il y a effectivement des embryons de culture qui existent et qui ont été décrits avec une variation géographique. Par exemple, je décris le cas du moineau à tête blanche en Californie. Il parle si l'on peut dire, des dialectes différents. Il chante dans des dialectes différents. Mais de là à dire qu'il s'agit de la musique dans le sens où on l'entend, je dirais, Pierre Boulez et moi, je reste quand même un petit peu dubitatif.
Il y a Philippe Manoury également dans cet
oui,
ouvrage
hein,
qui vous accompagne. Les neurones enchantés.
Voilà,
le cerveau et la musique chez Odile Jacob. C'était quoi l'idée au fond? C'était vraiment de croiser vos disciplines et de pouvoir voir un
oui,
petit peu comment un compositeur réagissait aux travaux de la neurobiologie?
Absolument. Je pense que c'est une entreprise très rare d'avoir un artiste qui est compositeur par surcroît, qui accepte de dialoguer avec un scientifique. Je pense pas qu'il existe d'autres livres équivalents. Et ce dialogue est très enrichissant parce que, à la fois, le neurobiologiste pose des questions sur la perception de la musique, qu'est-ce que la musique, qu'est-ce que l'œuvre d'art, qu'est-ce qui se passe dans la tête du compositeur lorsqu'il compose.
Oui.
C'est une chose qui est évidemment très importante, mais également, il y a la possibilité du compositeur, de l'artiste, de poser des questions au neurobiologiste. Hein, et il le fait de temps
oui.
en temps.
Il vous interpelle.
Oh, oui,
il
oui.
vous provoque. Il n'est pas d'accord avec vous.
Ah, non. En particulier, est-ce qu'il existe un noyau naturel qui va permettre au sujet d'apprécier la consonance, par exemple la musique consonante, parce que pour le grand public, Boulez, c'est une musique qui n'est pas toujours facile à accepter. Et il y a un dialogue, justement, pour savoir si, au fond, il existe des bases naturelles de la perception de la consonance et de la dissonance. Alors, oui. La position de Boulez, lui, est que tout est en code, tout est codé. Il y a une espèce d'arbitraire, comme dans le cadre du langage parlé. Hein, si vous comparez le chinois et le français, les mots, sur le plan sonore, sont différents, mais les sens sont communs. Il y a une diversité de sens. Eh bien, là, dans le cadre de la musique, évidemment, on se trouve dans une situation...
Alors, qu'est-ce qui se passe précisément dans notre cerveau lorsqu'on est confronté? Alors voilà, on écoute une musique plutôt familière, une sonate de Bach, par exemple, et puis à côté, une musique venant de Chine.
Oui.
Là, il n'y a pas une familiarité immédiate, évidemment, avec cette
non,
musique. Comment on réagit, alors?
Je crois que, justement, le dialogue avec moi, en ce qui concerne ce sujet, c'est qu'il y a, je pense, un corpus inné comme une prédisposition, si on peut dire, au langage. Et je persiste à croire qu'il y a quand même, je dirais, un répertoire auquel le bébé est très sensible. D'ailleurs, il est beaucoup plus universaliste que l'adulte. Donc, il va à la fois percevoir la gamme javanaise et oui. la gamme tempérée, et percevoir même des altérations dans la ligne mélodique ou dans l'harmonie que l'adulte ne fera pas. Il ne fera que dans un cas particulier, comme la musique occidentale. Il se passe un énorme apprentissage.
Donc, c'est le produit de la culture qui vient là-dessus.
Et oui. qui se produit grâce au développement des connexions dans le cerveau qui suivent la naissance. Si vous regardez un bébé, une seconde, combien de synapses se forment dans son cerveau de contact synaptique ? 10 millions. Vous imaginez l'extraordinaire capacité que le cerveau du nouveau-né a à, d'une part, se développer et surtout capturer des éléments du monde social, culturel, physique qu'il a autour de lui et qui va imprégner ses synapses. Mmh.
Et alors, le cerveau, justement, comment il fait la différence entre du bruit et de la musique, là aussi? Et est-ce que cette distinction, elle se manifeste concrètement aussi dans,
oui,
dans nos aires cérébrales?
D'abord, simplement, sur le plan neurobiologique, l'imagerie montre que c'est des voix qui sont différentes en ce qui concerne le bruit, le bruit de la rue et un son, une fugue de Bach. Bon, c'est pas du tout les mêmes territoires. Ceci dit, comme vous le savez, il peut y avoir un débat dans la musique contemporaine, si on peut intégrer le bruit à la musique. Ça peut exister. Ça existe même dans la musique baroque. Hein. Il y a le tonnerre, par exemple, qui arrive dans certains opéras de Rameau. Et donc, le bruit peut faire partie d'un ensemble musical. Mm-hmm. Mais le son musical et le bruit, c'est différent.
Jean-Pierre Changeux, si, par exemple, on évoque le frisson de la musique, on peut, entre autres exemples, diffuser l'adagio pour cordes de Barber. Alors là, c'est absolument inouï parce qu'on a vraiment au sens propre les poils qui se dressent sur les bras quand on entend ça.
Vous frissonnez.
Voilà, on frissonne. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe alors justement là ?
C'est-à-dire que dans le cas du langage, le langage par la parole ou par l'écrit véhicule des sens qui s'organisent et qui constituent des phrases qui ont une signification et ces phrases peuvent constituer les ébauches d'un raisonnement. Dans le cas de la musique, la référence au sens n'est pas du tout la même que dans le cadre du langage. Et il y a plutôt un espèce de répertoire d'émotions qui est d'ailleurs encore et complètement déchiffré, qu'il faut comprendre, qui fait que quand vous entendez certaines mélodies, comme nous venons d'entendre, et chez certaines personnes, je tiens à le dire quand même, il peut y avoir l'envahissement d'une émotion. C'est l'effet de Stendhal, vous voyez, quand il arrive, tu vois, à la chapelle Sixtine, il tombe. Tellement il est ému et donc il y a je dirais une communication qui est intersubjective dans le cas de la musique et qui n'est pas simplement sur le sens et dans cette communication intersubjective les émotions jouent un rôle très important et permettent aussi de vivre ensemble cette même émotion. Voilà, je pense que c'est un des aspects les plus importants de la musique, c'est ce partage que l'on peut avoir dans à la fois la perception et les émotions qui l'accompagnent.
Sylvie Chocron, évidemment, ça vous touche, ça vous parle.
Oui. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer que cette association entre perception et émotion, elle est apprise ? Ou est-ce que vous pensez qu'on a une prédisposition à susciter, à faire émerger des émotions en fonction de certaines perceptions ? Parce qu'il y a certaines hypothèses qui prédisent qu'on apprend la douleur, par exemple, on apprend à avoir mal, qui est une dimension cognitive de savoir. Est-ce que l'association entre la perception et les émotions, pour vous, c'est du registre de l'apprentissage ?
Ce que je vous suggère d'abord, c'est de lire le dialogue avec Pierre Boulez, parce que nous passons beaucoup de temps à débattre de ce point qui est évidemment un point extrêmement important. Pour ma part, je pense qu'il y a un répertoire d'émotions de base qui est commun est propre au cerveau de l'homme, quel que soit le groupe social auquel il appartient, quelle que soit la culture. Mais il y a bien entendu une imprégnation culturelle, et même comme dans le langage, même dans le raisonnement, il y a toujours une composante émotionnelle qui joue et qui peut être acquise et apprise. Voyez, ce que vous nous avez fait entendre vous fait frissonner. Je vous ai vu frissonner, là, donc il y a une réaction physiologique claire. Mais je ne suis pas sûr que Pierre Boulez ou Philippe Hanoury aient réagi exactement de la même manière. Donc je ne dis pas qu'ils n'aient pas réagi de la même manière, mais enfin, je me pose la question. Donc ça peut varier beaucoup avec l'apprentissage, la culture et l'environnement dans lequel on se trouve.
Jean-Claude Amezène.
Je crois qu'en effet, c'est très ancré dans ce qu'on a vécu. Il y a des travaux d'éthologues comme Jacques Panksepp qui pensent, on sait que par exemple, être rejeté par les autres active dans le cerveau les mêmes centres que la douleur physique. Donc en fait, on vit cette douleur et l'idée, c'est que le petit bébé, dès qu'il est tout petit, dans ses relations avec sa mère, avec ses parents, avec les adultes, au fond, apprend à connecter sa relation à l'autre avec un sentiment de plaisir ou de déplaisir, de peur ou de joie. Et donc il y a quelque chose qui est, c'est un peu comme les langues. Un bébé va pouvoir apprendre n'importe quelle langue humaine, mais il va s'adapter étroitement à celle qu'il est en train d'apprendre. Et au niveau de notre répertoire d'émotions, ça doit être un peu la même chose. Les travaux de Robert Zatorre de Montréal sur la musique montrent que ces frissons, l'anticipation d'une musique déjà connue, peut le provoquer lorsqu'on s'attend à le réentendre. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui ressemble à cette impression magique, cette espèce de, il ne parle pas de frisson, mais de joie qui l'envahit, de Marcel Proust, lorsqu'il boit le thé avec la Madeleine, qui le ramène à quelque chose qui est le lien à sa tante Léonine. Donc comment est-ce qu'on rattache un répertoire a priori universel à des expériences qui sont vécues à la fois individuellement et dans une culture, et ce qui explique peut-être une des différences entre ce que nous appelons la musique et ce que nous percevons comme du bruit. N'oublions pas que pour les Grecs, les langues des autres étaient du bruit. C'est pour ça qu'ils appelaient les étrangers des barbares. Parce qu'ils disaient, les étrangers ne parlent pas, ils disent barbare. Ouais. C'est du bruit. Et donc, il y a quelque chose qui fait que notre langue n'est jamais du bruit et que parfois, les langues des autres sont soit de la musique, soit du bruit.
C'est presque le thème de l'émission de demain, ça, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezène, non?
Alors, c'est en quoi, c'est la musique des mots, c'est en quoi, c'est un travail tout récent, le fait d'avoir entendu dans certaines langues le ton qu'on utilise pour dire un mot ne traduit pas l'émotion, mais donne un sens additionnel au mot. Hein, ma, en chinois, peut vouloir dire cheval, lin, est-ce que, maman ou injurier. Et donc, des petits-enfants qui ont été adoptés avant l'âge d'un an et qui ne parlent plus le chinois et qui ne savent pas qu'ils ont entendu le chinois quand ils sont petits, réagissent au niveau de leur cerveau aux tonalités de la langue chinoise comme quelqu'un qui parle le chinois.
C'est ce que vous allez nous raconter demain.
Voilà, même s'ils ne savent pas, même s'ils ne savent plus.
Voilà, il commence déjà à faire l'émission, Jean-Claude. Il est très pressé de vous raconter ces belles histoires. Donc ce sera 11h demain.
C'est encore une fois à propos d'un point qui est soulevé par Jean-Claude Amezène, qui est l'aspect anticipation qu'il a mentionné à de reprises d'ailleurs, et qui pour ma part est extrêmement important. Je dirais que c'est ce qui caractérise avant tout le cerveau des êtres supérieurs, enfin l'homme en particulier. Et cette capacité anticipatrice est très importante parce qu'elle nous donne la possibilité d'explorer. Mm-hmm. Et au fond, qu'est-ce qui se passe au cours de l'évolution culturelle ? C'est une exploration constante de nouveaux territoires. Et entre autres, d'explorer ce que nous produisons dans notre propre cerveau. Et qu'est-ce que se passe à ce moment-là ? C'est la création. Et ça, c'est un aspect sur lequel nous passons beaucoup de temps avec Pierre Boulez pour essayer de comprendre comment le cerveau du compositeur crée la musique.
Je reposerai la question dans un instant. On va vers le public. Monsieur, bonjour.
Bonjour. Oui, je voulais savoir si vos invités et vous-même avez une idée sur la méthode qui est employée pour apprendre aux tout petits enfants vers 8-9 mois à utiliser la langue des signes, adaptée bien sûr à leur âge. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et d'autre part, je peux me permettre tout à l'heure que ce n'était pas un chant de grillon, mais de criquet.
Oh là, alors là,
grosse différence.
Alors on va revisiter notre catalogue et on va changer alors.
Les stridulations du grillon sont beaucoup plus musicales.
Merci, voilà. C'était important d'apporter cette précision dans une émission scientifique. Merci beaucoup en tout cas. On va corriger donc nos références. Qui veut répondre à cette question? Jean-Claude Amezène.
Peut-être, ça revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Peut-être que la première communication, en ce qui concerne la langue, est celle du chant. C'est une familiarisation avec la musique, des voyelles, des consonnes. Et puis, la première familiarisation, c'est aussi une familiarisation gestuelle. C'est les mimiques, c'est le sourire, c'est ce que... Et donc, il est possible, il y a des travaux qui le suggèrent, comme vous l'évoquez, que la langue des signes amplifie, je dirais, facilite au fond l'appréhension, l'appropriation d'un langage. Parce que lorsque l'enfant connaît déjà le sens des mots, ce qui le freine, c'est la difficulté à prononcer. De la même façon que certains travaux montrent qu'un enfant peut écrire sur une machine à écrire ou un ordinateur avant d'être capable, d'un point de vue moteur, de tracer les lettres à la main. Donc il est possible que c'est difficile de prononcer les mots, et il est possible que d'autres façons de communiquer facilitent un échange de sens au cours du développement de l'enfant.
Sylvie Chocron.
Oui, je pense que vous avez raison. Je pense que le bébé comprend énormément de choses avant de parler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se fait comprendre très longtemps avant l'apparition du langage oral. Donc il y a forcément d'autres moyens de communication que la parole articulée, bien sûr.
Jean-Pierre Changeux, deux points encore avant d'écouter Sylvie Chocron sur la mesure de l'intelligence. La récompense, vous expliquez que ça joue un rôle très très important dans notre relation à la musique.
Absolument, c'est d'ailleurs une relation au monde d'une manière générale. Justement, notre cerveau fonctionne sur un mode projectif. Nous nous posons des questions et nous posons des questions au monde. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques minutes? Cette relation au monde va se manifester par une réponse, en quelque sorte, de l'interaction avec le monde extérieur sous forme d'une récompense. Mais récompense ne signifie pas nécessairement plaisir. Ça peut être plaisir ou déplaisir. Nous avons dans notre cerveau des systèmes spécialisés qui font intervenir un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. C'est d'ailleurs certains troubles de cette neurotransmission qui peut provoquer des troubles mentaux.
Est-ce qu'un compositeur...
Elle est très importante pour la musique parce que, justement, la musique va essentiellement agir sur les émotions.
Alors justement, est-ce qu'un compositeur, dans son travail, il va inconsciemment essayer d'activer ses réseaux de la récompense? Consciemment,
tête.
Oui. Quand il travaille.
Absolument. Justement, ce qui est intéressant dans la musique contemporaine, c'est que la récompense n'est pas nécessairement exactement la même que lorsqu'on écoute un choral de Bach. Il peut y avoir des récompenses négatives, en ce sens peut-être même des douleurs, des souffrances qui ont un pouvoir émotionnel considérable. Mm-hmm. Pensez dans le cas des arts plastiques à Goya, par exemple, et au Malheur de la guerre. Et je pense que dans la musique, il faut aussi laisser cette composante. Et à cet égard, Boulez a tout à fait raison d'insister sur le fait qu'il ne faut pas faire une musique qui sente la bergerie, comme il dit, et qui soit celle de Rameau, parce qu'il critique beaucoup Rameau sur ce plan, et qui n'apporte que quelque chose d'agréable ou plaisant. Ouais. Si vous voulez.
Allez, Jean-Claude, pour terminer, vraiment, s'il vous plaît.
Juste deux points. Le plaisir, la récompense qu'évoquait Jean-Pierre Changeux, les travaux de Robert Zator et auxquels je faisais allusion, les frissons quand on anticipe une belle musique, s'accompagnent d'une décharge de dopamine, comme lors d'un très grand plaisir. Le deuxième point, c'est que la répétition d'une expérience même douloureuse, ce que vous dites renvoie à Freud dans Au-delà du principe du plaisir, qui disait que dans la répétition, il y a du plaisir, même si ce qu'on répète était source de souffrance ou de douleur.
Jean-Pierre Changeux, est-ce que vous déchargez toujours de la dopamine en entendant Bartok, par exemple? Musique
oui,
pour corps, percussion et céleste.
Ah oui, merveilleux, merveilleux.
Ça, c'est important pour vous, hein?
Absolument.
Ça, ce sont vos débuts de musicien, quasiment?
J'ai commencé avec Jean-Sébastien Bach, puis je jouais adolescent de l'orgue, et puis je suis ensuite passé à Olivier Messiaen, qui est un très brillant compositeur français, qui a d'ailleurs lui-même inspiré Pierre Boulez.
Et qui aimait beaucoup les animaux aussi, vous en parlez.
Oui, les oiseaux. Oiseaux à la Messiaen, comme dit Pierre Boulez. C'est-à-dire que il a reconstruit le chant des oiseaux pour en faire de la musique, et Donc c'est une manière d'écrire très singulière, très originale et fascinante.
Allez, les neurones.
On en parle d'ailleurs.
Enchanté, absolument. Le cerveau et la musique aux éditions Odile Jacob. Sylvie Chocron, neuropsychologue, directrice de recherche. Vous dirigez l'unité fonctionnelle Vision et Cognition qui est implantée à la Fondation Ophtalmologique Rothschild et associée au laboratoire de psychologie de la perception du CNRS. Là, j'ai tout dit. En ce qui concerne vos titres, peut-on mesurer l'intelligence? Ça, c'est le thème que vous développez dans cet ouvrage. Est-ce que vous aviez envie de secouer un peu le cocotier en écrivant ce livre? On a quand même le sentiment que vous remettez un peu les choses au clair, non?
Moi, j'avais surtout envie de parler de mon expérience personnelle, qui est une situation un peu difficile, parce que je suis chercheur donc, en psychologie cognitive, en sciences cognitives, dans un monde de chercheurs où l'intelligence n'existe pas. Donc vous ne trouverez pas de recherche vraiment qui manipule l'intelligence ou qui emploie même le terme intelligence. Donc on va parler d'anticipation, de planification, de jugement critique, de perception, d'action, mais vous ne trouverez pas de chercheurs en sciences cognitives qui vous disent « je travaille sur l'intelligence ». Et à côté de ça, je suis donc responsable d'un service clinique où on s'occupe de patients qui ont des troubles cognitifs, ouais, qui régulièrement arrivent chez nous avec des batteries de tests,
voilà,
et en particulier déficience intellectuelle. Et donc, j'avais envie de poser cette question. Peut-on mesurer l'intelligence? Parce que pour moi, qui vient d'un domaine de recherche où l'intelligence n'existe pas, voir arriver des patients avec des tests d'efficience intellectuelle, leur établissant un niveau intellectuel très bas, alors qu'en réalité, on a probablement testé autre chose, m'a donné envie de réagir et de relier ces deux parties de moi,
voilà,
et d'expliquer à quel point cette situation n'était plus vraiment acceptable à notre époque.
Donc, il y a un problème de fiabilité, d'intérêt même de ces tests?
Mais il y a surtout un problème, je pense, vraiment de dénomination. C'est-à-dire que ces tests testent la capacité de sujet à répondre à des questions qui sont censées mesurer l'intelligence. Sauf que ces questions, elles utilisent la perception, l'action, le langage, tout un tas de fonctions qui peuvent être troublées chez des patients, qui du coup vont se retrouver avec un niveau intellectuel considéré comme étant très bas, alors qu'en réalité, on a testé leur trouble instrumental, qu'il soit perceptif, moteur, gestuel, langagier, etc. Et donc, du coup, il y a une méprise sur ce qu'on mesure. Et ce qui est très amusant, c'est que si vous posez cette question à des psychologues qui utilisent les tests, peut-on mesurer l'intelligence? Ils vont vous répondre que non, pas du tout, on ne peut pas mesurer l'intelligence.
Et pourtant, on passe son temps à le faire.
Et pourtant, ils vont passer leur temps à utiliser des tests qui sont censés mesurer l'intelligence.
Ouais.
Donc, du coup, je pense qu'il faut maintenant s'entendre sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait et à quoi sert cette mesure,
ouais,
à qui sert cette mesure.
Et il faut déjà s'entendre sur ce qu'est aussi l'intelligence.
Exactement.
Ce qui est un peu compliqué d'ailleurs, hein, non ?
Exactement, parce que, comme je vous le disais, ce concept d'intelligence, ces 20 dernières années, il a été complètement abandonné au profit d'autres processus, d'un ensemble de processus cognitifs. Et on est même passé d'une situation où on pensait qu'on avait des régions cérébrales qui étaient cruciales pour ces processus, à l'idée que ce sont les connexions aussi entre ces régions qui sont surtout cruciales. Et donc ces tests sont restés ce qu'ils étaient depuis plus de 40 ans. Alors que les concepts ont beaucoup évolué. Donc je pense qu'il est peut-être temps de poser juste la question. Et cette pomme m'a permis de poser cette question.
Cette pomme, c'est la collection, voilà. Effectivement, aux éditions du Pommier, en l'occurrence. Tout cela incarné par le fameux QI, hein, qui est vraiment illustre. Peut-être cette dérive, hein, que vous décrivez dans votre livre. Jean-Pierre Changeux, alors l'intelligence, le cerveau.
Tout à fait ce point de vue-là. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a mesurer et il y a l'aspect intelligence. Je pense que la connaissance scientifique, c'est avant tout des mesures. Donc je crois qu'il ne faut pas bannir la notion de mesure, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on mesure. Et je pense qu'en l'occurrence, l'intelligence, c'est un ensemble extrêmement complexe de dispositifs cérébraux fonctionnels qui peuvent varier éminemment d'un individu à l'autre. Alors, il y a des variations d'origine génétique, pathologiques, qui ne le sont pas, d'autres qui le sont. Et puis, il y a simplement la variabilité individuelle entre individus. Et ça, c'est une des prédictions assez intéressantes du modèle de développement darwinien des synapses, enfin, épigénétiques, que justement de conduire à une variabilité. Et il n'y a pas deux cerveaux identiques.
Ouais.
Nous sommes ici quatre cerveaux et quatre cerveaux différents.
Et le problème, c'est
non
aussi...
Non seulement nous sommes quatre cerveaux différents, mais notre cerveau diffère à chaque instant,
oui,
aussi.
Ah oui,
c'est le problème aussi de la stigmatisation.
Absolument.
Des personnes. Exactement. Au travers de ces tests.
Oui, je crois que l'intelligence, étymologiquement, c'est intéressant, c'est la capacité à lier les choses entre elles. Et donc, il y a une infinité de façons de lier les choses entre elles et de construire, d'interpréter les mondes. Et le problème de ces tests d'intelligence, c'est qu'ils sont extraordinairement réducteurs et normativistes. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une intelligence et qu'on classait les personnes pour savoir si elles sont plus ou moins intelligentes qu'un prototype platonicien abstrait. Or, ce qui fait la richesse de l'humanité, c'est justement ces différentes façons de lier ensemble ce que nous ressentons, ce que nous comprenons et ce que nous explorons. Ouais.
Et les facteurs émotionnels jouent un rôle très important. Exactement. Aussi dans la variabilité de ces tests. Hein.
Exactement. Et finalement, s'il y a un domaine qui a été très, très ignoré, c'est vraiment la question du lien, justement, entre les émotions et la cognition.
Absolument.
Et autant en psychopathologie, on va s'interroger sur ce qui diminue les capacités intellectuelles, autant en psychologie cognitive, on va aussi s'interroger sur ce lien, sauf que jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment les moyens de comprendre comment des émotions peuvent bloquer la mise en œuvre des processus cognitifs, par exemple. Mmh. Pourquoi est-ce que quand on n'est pas disponible, comme on dit, intellectuellement, parce qu'on a un souci, on ne peut pas utiliser notre attention, ou notre mémoire, ou nos capacités de raisonnement. Donc ça, c'est une question qui reste entière pour les sciences cognitives et qui a un enjeu beaucoup plus large que la mesure des...
Mais le problème, c'est la complexité de l'intelligence à laquelle ne peut pas répondre un test comme ça.
Sauf que le problème, c'est qu'on s'accorde tous à dire la même chose.
Mais qu'on les utilise toujours.
Non seulement on utilise toujours ces tests, mais l'utilisation se répand de plus en plus, y compris dans les cabinets de recrutement professionnels, y compris pour l'orientation scolaire et y compris pour la prise en charge de patients qui ont des difficultés.
Donc ça fait des gros dégâts.
Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de poser cette question de manière naïve, si je puis dire, pour dénoncer cette dérive qui ne recouvre pas d'entité scientifique, on va dire, ou théorique.
Jean-Pierre Changeux.
Moi, je suis entièrement d'accord. La composante émotionnelle que vous mentionniez est évidemment extrêmement importante, surtout en ce qui concerne les éducateurs et les retards scolaires. Il peut y avoir des blocages émotionnels qui font que l'enfant ne va pas apprendre, ne va pas réagir. Il faut surmonter ces blocages et je trouve que les disciplines qui sont engagées comme la vôtre sont évidemment extrêmement importantes pour les apprentissages.
Jean-Claude Amezen.
Je pense que tous les travaux d'Antonio Damasio, par exemple, et de son école depuis une vingtaine d'années, vont plus loin. Non seulement il peut y avoir des blocages de la capacité à raisonner, mais il n'y a pas de raisonnement, au fond, qui s'élabore s'il n'y a pas une composante émotionnelle à sa source. Au point, d'ailleurs, ce qui est très bizarre quand on fait des tests d'intelligence, que lorsqu'une personne raisonne très bien, mais ne ressent aucune émotion, on dit d'elle qu'elle est inhumaine. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui définit notre intelligence au sens profond et humain du terme, c'est le fait que nous soyons capables de ressentir des émotions, de les exprimer et de les partager.
Sylvie Chocron, vous allez vous attirer les foudres de tous ceux au quotidien utilisent, et ils sont très nombreux et de plus en plus nombreux, ces tests de mesure de l'intelligence.
Sans doute, mais en même temps, je pense que c'est très très important de savoir pourquoi on utilise ces tests, comment on les utilise, est-ce qu'on doit encore les utiliser.
Alors, vous vous dites clairement quoi ? Non, il faut les jeter à la poubelle ?
Non, je pense que dans certains cas, quand le sujet est son propre point de référence, imaginons qu'on ait envie de suivre la récupération chez un patient qui aurait eu une lésion, qui serait pris en charge, qui aurait des difficultés au départ et qu'on veuille suivre sa progression, pourquoi pas le comparer à lui-même.
Oui.
Toute la difficulté vient de situations où on utilise des tests, qu'on fait passer à des sujets qui n'ont pas la même langue maternelle ou pas la même culture, pas la même éducation, qui sont dans un état émotionnel difficile ou qui ont des troubles, des processus qui sont nécessaires pour réaliser ces tests, la vision, le langage, les gestes, etc. Alors dans ces cas-là, on se met dans des situations où on pense tester l'intelligence, mais on teste complètement autre chose.
Voilà, c'est passionnant et c'est intelligent justement, ce livre « Peut-on mesurer l'intelligence ?» qui paraît donc Sylvie Chocron, aux grandes ou aux petites pommes du savoir ?
Aux
grandes pommes du savoir, voilà, aux éditions du Pommier. Vous allez signer votre livre d'ailleurs dans
juste
quelques
après.
Instants, tout comme Jean-Pierre Changeux. Hein, Jean-Pierre, c'est vous bon, êtes là aussi pour rencontrer votre public. Et puis Jean-Claude, lui, va se faire un petit peu attendre et désirer. Hein, il faudra venir vous voir demain
après-midi.
Demain à 14h, Jean-Claude Amezen pour donc ce livre sur les épaules de Darwin, Retrouver l'aube, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci à toute l'équipe technique qui était présente, Stéphane Poitevin, Bernard Quentin, Étienne Leroy, Benoît Gégou. Et puis je dois vous dire également que dans un instant, ce sera Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel. Golda Meir en sera le sujet aujourd'hui. Merci beaucoup à tous.
Merci à vous.
Et bon week-end au public qui était avec nous nombreux. Et venez fêter le livre ici à la Maison de la Radio.